m'a demandé de présenter l'encyclique Dilexit Nos, mais comme je ne suis pas professeur de théologie ni grand prédicateur, je vais le faire à ma manière, un peu imagée. Et je parlais du Jardin des Plantes à Paris. Vous n'êtes certainement pas très nombreuses à le connaître, mais ce jardin, j'ai eu l'occasion de m'y promener avec les membres du bureau du SDM. Et je suis tombée en amour de ce jardin. Il comporte plusieurs portes pour y entrer et plusieurs chemins, grands ou petits, des coins et de recoins où s'asseoir pour discuter ou simplement se reposer. Il est très beau en toute saison et très fréquenté. Et il nous présente aussi une grande variété de plantes et de fleurs. Alors vous vous demandez peut-être où je veux en venir avec mon histoire de jardin. Eh bien, pour moi, lire et méditer l'encyclique du Saint-Père, c'est un peu comme entreprendre une promenade dans un endroit qui nous est à la fois familier, mais dont on sait qu'il nous réservera des surprises. Il y a plusieurs portes pour entrer dans ce document, et nous pouvons en choisir plusieurs chemins pour nous y promener. Je vais essayer de vous en montrer quelques-uns, et de votre côté, vous pourrez continuer la balade à votre propre rythme. Pour la petite histoire, en juin 2024, au cours d'une audience générale, le pape François avait annoncé qu'il préparait un document sur le Sacré-Cœur. Sa sortie était prévue pour le mois de septembre. Et finalement, il a été rendu public en octobre, le 24 octobre. Et entre-temps, il était devenu la quatrième lettre encyclique du pape. C'est dire son importance. Importance d'autant plus grande aujourd'hui qu'il revêt la couleur d'un testament spirituel. Au cours de cette audience générale, il avait déclaré « Je suis heureux de préparer un document qui rassemble les précieuses réflexions des textes magistériels précédents sur la question du Sacré-Cœur et d'une longue histoire qui remonte aux Saintes Écritures pour reproposer aujourd'hui à toute l'Église ce culte chargé de beauté spirituelle. Je crois qu'il fera un grand bien de méditer sur ces divers aspects de l'amour du Seigneur qui peuvent éclairer le chemin du renouveau ecclésial et dire quelque chose de significatif à un monde qui semble avoir perdu le cœur. » Fin de citation. Le Saint-Père a écrit qu'à sa lumière, la lumière de l'encyclique Dilexit Nos, on peut mieux interpréter ces deux encycliques précédentes. Il écrit au numéro 217 de Dilexit Nos, le présent document peut nous aider à voir que l'enseignement des encycliques sociales Laudato Si et Fratelli Tutti n'est pas sans rapport avec notre rencontre avec l'amour de Jésus-Christ. Car c'est en buvant à ce même amour que nous devenons capables de tisser des liens de fraternité, de reconnaître la dignité de chaque être humain et de travailler ensemble à prendre soin de notre maison commune. L'encyclique n'est donc pas un simple beau traité de spiritualité. Elle nous conduit à un engagement très concret. Pour celles qui n'auraient pas pu encore la lire, je vais vous en faire une présentation rapide, enfin plus ou moins rapide. J'espère que notre entretien vous donnera envie de l'étudier par vous-même. En effet, je pense que pour nous, visitandines, un véritable renouveau du culte du cœur de Jésus est possible grâce à ce document. Pour cela, il faut se donner la peine de l'approfondir personnellement et pourquoi pas communautairement. Je vous assure que sa lecture est relativement facile et qu'elle est plutôt courte. Je vous prie de m'excuser, mais j'ai un rhume. Donc, le plan de l'encyclique. Il y a une introduction qui ne fait qu'un paragraphe, puis 5 chapitres et une conclusion de 4 paragraphes. Le chapitre 1, l'importance du cœur. Il va du numéro 2 au numéro 31. Dans ce chapitre, le pape s'intéresse à ce que veut dire le mot « cœur » à partir de la civilisation grecque antique et de la Bible. Il ne s'agit pas encore là du cœur de Jésus, mais de celui de l'homme, de l'être humain. Le cœur humain est le centre du désir et le lieu où se prennent les décisions importantes. Il renvoie à ce que pense la personne, à ce qu'elle croit vraiment, ce qui n'est ni apparence ni mensonge. On ne peut pas tromper au niveau du cœur. Nombreuses sont les tentatives pour montrer ou exprimer ce que nous ne sommes pas. Rien de valable ne se construit sans le cœur. Dans notre société de surconsommation, le pape nous invite à revenir au cœur. Et ne croyons pas être à l'abri du monde dans nos communautés. En effet, nous parlions de sociétés de surconsommation, le pape dit des consommateurs en série. Je me permets de vous poser la question, comment réagissons-nous quand nous n'obtenons pas ce que nous voulons? Avons-nous encore cette culture de la patience qui est une des plus belles caractéristiques de la vie contemplative? C'est, nous dit le pape, ce cœur humain qui me distingue, me façonne dans mon identité spirituelle et me met en communion avec les autres. Ce cœur qui assemble les fragments et rend possible tout lien authentique. Car une relation qui n'est pas construite avec le cœur est incapable de surmonter le morcellement de l'individualisme. Cet individualisme qui est probablement la maladie du siècle, et qui atteignent aussi nos communautés. Et en fin de compte, il nous fait perdre le sens de la gratuité et la joie. Je, en tant que sujet, n'existe que parce qu'il y a un tu en vis-à-vis. Je dirais que le cœur du cœur de ce premier chapitre se trouve, pour moi, au numéro 21. Il est écrit « Tout s'unifie dans le cœur. Si l'amour y règne, la personne réalise son identité de manière pleine et lumineuse. Car tout être humain a été fait avant tout pour l'amour. Il est fait dans ses fibres les plus profondes pour aimer et être aimé. Le chapitre 2, des gestes et des paroles d'amour. Il va du numéro 32 au numéro 47. C'est le chapitre le plus court où, en bon jésuite qu'il est, le Saint-Père fait porter sa réflexion sur les gestes concrets et les paroles du Christ dans les évangiles qui ont révélé la profondeur de son amour pour les êtres humains. Il nous fait contempler le cœur humain et divin du Christ, symbole du centre personnel d'où jaillit pour nous tout son amour. Dans les évangiles, nous trouvons les gestes, les regards, les paroles du Christ qui sont l'expression d'un amour qui le mènera jusqu'à donner sa vie sur la croix. Jésus ne s'est pas contenté de nous expliquer son amour. Il nous l'a montré. Il nous conduit au lieu le meilleur, son cœur. Il nous appelle à entrer là où nous pouvons retrouver des forces et la paix. La plus grande manifestation de l'amour du Christ pour l'homme se situe sur la croix. C'est la parole la plus éloquente. Saint Paul écrira cette phrase qui sera reprise par notre saint fondateur. Il m'a aimé et s'est livré pour moi. Le chapitre 3, voici le cœur qui a tant aimé. Il va du numéro 48 au numéro 62. Dans ce chapitre, le pape s'interroge et nous interroge sur la dévotion au cœur de Jésus. Il nous appelle à ne pas séparer l'organe du cœur de la personne du Christ. Dans la représentation que nous pouvons nous en faire, quand on pense cœur de Jésus, c'est toute la personne de Jésus. L'adoration s'adresse au Christ vivant, dans sa divinité et dans toute son humanité. afin de nous laisser étreindre par son amour humain et divin. L'image du cœur doit nous renvoyer à la totalité de Jésus-Christ, en son centre unificateur, et elle doit nous amener à contempler le Christ dans toute sa beauté, dans toute la richesse de son humanité et de sa divinité. Le Saint-Père exhorte les catholiques à ne pas s'attacher à des images particulières du cœur de Jésus, dont certaines peuvent même nous paraître de mauvais goût et peu propices à la prière. Leur but est de nous conduire à une rencontre avec Jésus et non pas de nous arrêter à elle-même. Dans une formule un peu provocante, je dirais, ne confondons pas la dévotion au Sacré-Cœur avec le culte du Sacré-Cœur. La dévotion passe par des moyens concrets. Le culte rejoint la personne du Christ. Le pape défend la pertinence de la dévotion au cœur de Jésus, nous rappelant qu'en tant qu'être humain, nous avons besoin de signes concrets. Il nous faut juste veiller à ne pas nous y attacher pour qu'elles ne deviennent pas des idoles. L'enseignement se poursuit des numéros 59 à 69 sur l'amour sensible du Christ et le triple amour de Jésus. À la lumière de la doctrine des papes et des pères de l'Église. L'amour du Christ est une révélation de la miséricorde du Père. Son désir est que, poussé par l'Esprit qui jaillit de son cœur, avec lui et en lui, nous allions vers le Père. C'est la dimension trinitaire de la dévotion au cœur de Jésus, des numéros 70 à 77. L'image symbolique du cœur de Jésus n'est pas le seul moyen que nous avons pour rencontrer l'amour du Christ. Mais la dévotion au cœur de Jésus est essentielle à notre vie chrétienne. François suggère que, tout comme la dévotion au Sacré-Cœur qui a défié le jansénisme au XVIIe siècle, cette dévotion aujourd'hui répond à une puissante vague de sécularisation qui cherche à construire un monde libéré de Dieu, au numéro 87. Dans ce même paragraphe, le Saint-Père nous avertit qu'un dualisme janséniste préjudiciable renaît sous de nouveaux traits au sein même de l'Église. C'est pourquoi, écrit-il, je tourne vers mon regard vers le cœur du Christ et je vous invite à renouveler votre dévotion. Au numéro 91, le Saint-Père fait lui-même la transition avec les chapitres qui vont suivre, puisqu'il écrit « Dans les chapitres suivants, nous allons souligner deux aspects fondamentaux que la dévotion au Sacré-Cœur doit réunir aujourd'hui pour continuer à nous nourrir et à nous rapprocher de l'Évangile, l'expérience spirituelle et l'engagement communautaire et missionnaire. Nous en arrivons au chapitre 5, l'amour qui donne à boire. Un long chapitre, du numéro 92 au numéro 163. Ce chapitre considère les racines historiques profondes de la dévotion au cœur du Christ, en commençant par la Bible hébraïque, le Nouveau Testament et les premiers pères de l'Église. Il est d'une grande richesse. La multitude des expressions bibliques soulignant l'amour constant de Dieu pour les hommes, sa compassion même, est impressionnante. On pourrait en faire une lectio divina. Dans l'Évangile, selon saint Jean, l'image du cœur transpercé de Jésus après sa mort, d'où s'écoulent l'eau et le sang, va inspirer les pères de l'Église des premiers siècles et pénétrer les communautés monastiques par qui la dévotion au Sacré-Cœur va se répandre. Le pape retrace la diffusion de la dévotion au Moyen-Âge en soulignant les expériences mystiques de nombreux saints et saintes, contribuant à une large diffusion de ce culte qui touche les fidèles. Il consacre une section importante de ce chapitre, des numéros 114 à 118, à une personne qui est chère à notre cœur, à nos cœurs de visitandine, saint François de Sales, pour qui cette dévotion est une invitation à une relation personnelle d'amour et de confiance. Il en arrive ensuite aux révélations reçues par sainte Marguerite Marie, soutenues par le Saint-Père Claude Lacolombière, des numéros 119 à 128. Puis il nous parle de la longue chaîne des témoins du cœur de Jésus, Charles de Foucault, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, les pères de la Compagnie de Jésus, bien sûr. Plus proche de nous, nous rencontrons le saint Padre Pio ou sainte Mère Teresa de Calcutta. Et pour finir, celui qui a tant souligné l'aspect de la miséricorde, saint Jean-Paul II. Les deux derniers paragraphes de ce chapitre, des numéros 151 à 163, nous parlent de l'aspect de la consolation, non sous l'angle de la réparation qui fera l'objet du prochain chapitre. C'est le désir intérieur de consoler Jésus d'une manière mystérieuse, mais réelle. Le chapitre 5, Amour pour amour, qui est long lui aussi, du numéro 164 au numéro 216. Amour pour amour, je vous rappelle que c'est le thème de l'année du jubilé du Sacré-Cœur et du colloque qui a eu lieu à Rome. Le pape François considère la réponse de l'homme à la rencontre avec le cœur aimant du Christ. Il écrit au numéro 166, la demande de Jésus est l'amour. Et la réponse de notre sainte sœur est, je me sentis touchée du désir de lui rendre amour pour amour. Le Saint-Père réfléchit sur la manière dont les chrétiens, au cours des siècles, ont été amenés à répondre aux besoins et aux souffrances des autres. Il écrit, nous devons revenir à la parole de Dieu pour reconnaître que la meilleure réponse à l'amour de son cœur est l'amour pour nos frères. Il n'y a pas d'acte plus grand que nous puissions offrir pour lui rendre amour pour amour. Il s'intéresse ici à la signification de la réparation au Sacré-Cœur, qui est un élément important de la dévotion associée à Sainte Marguerite Marie. Nous pouvons lire au numéro 171, regardez la blessure du cœur du Seigneur nous aide à être plus attentifs aux souffrances et aux besoins des autres, nous rend assez forts pour participer à son œuvre de libération en tant qu'instrument de diffusion de son cœur, de son amour, pardon. Le Saint-Père nous montre ensuite la résonance de ce lien entre dévotion au cœur de Jésus et engagement envers les frères à travers l'histoire de la spiritualité chrétienne. Des numéros 172 à 180. Nous comprenons alors quel sens nous devons donner à la réparation, ce que le Seigneur attend vraiment que nous réparions avec l'aide de sa grâce pour construire une nouvelle civilisation de l'amour sur les ruines que nous avons laissées en ce monde par notre péché. C'était les numéros 181 et 182. La réparation suppose deux attitudes qui engagent. Se reconnaître fautif d'abord, demander pardon ensuite. C'est le numéro 187. Il y a dans toute cette partie de très belles paroles sur le pardon qui peut permettre de guérir les relations. Elle peut toucher le cœur, le consoler, susciter l'accueil du pardon demandé et conduire à nous offrir à l'amour miséricordieux comme le fit la petite Thérèse. Au numéro 200, nous trouvons une invitation solennelle de la part du Saint-Père. Je propose que nous développions cette forme de réparation qui consiste en définitive à offrir au cœur du Christ une nouvelle possibilité de répandre en ce monde les flammes de son ardente tendresse. Nous en arrivons à la conclusion, les numéros 217 à 220. La conclusion de l'encyclique est d'une grande actualité. Dans un monde où tout s'achète et se paie, où il semble que le sens même de la dignité dépende de ce que l'on peut obtenir par le pouvoir de l'argent, il s'agit de réinventer l'amour où la capacité d'aimer semble définitivement morte. L'Église aussi en a besoin pour ne pas remplacer l'amour du Christ par des structures dépassées qui finissent par prendre la place de l'amour gratuit de Dieu. Un fleuve qui continue de jaillir de la blessure du côté du Christ, seul son amour rendra possible une nouvelle humanité. Et le pape termine par une magnifique prière que nous pouvons faire nôtre. Je prie le Seigneur Jésus-Christ que jaillisse pour nous tous de son saint cœur ces fleuves d'eau vive que guérissent les blessures que nous nous infligeons, qui renforcent notre capacité d'aimer et de servir, qui nous pousse à apprendre à marcher ensemble vers un monde juste, solidaire, fraternel. Et ce, jusqu'à ce que nous célébrions ensemble, dans la joie, le banquet du royaume céleste. Le Christ ressuscité sera là, harmonisant nos différences par la lumière jaillissant inlassablement de son cœur ouvert. Qu'il soit béni. Amen. Au début de mon intervention, je vous disais qu'il y avait plusieurs possibilités d'entrer dans cette encyclique et plusieurs chemins pour la parcourir. Il ne faut pas hésiter à le faire, chacune à notre manière. En ce qui me concerne, je suis restée très longtemps sur les premiers mots de l'encyclique, qui donne son titre d'ailleurs, « Il nous a aimés », tiré de l'épître de saint Paul aux Romains. De là, j'ai repris en lectio les citations qui s'en rapprochaient. Cela a nourri ma prière pendant plusieurs jours, avant que je ne puisse passer à la suite. Mais dans un article que j'ai lu récemment, j'ai vu qu'on pouvait aussi commencer par la prière finale, car c'est dans cette prière qu'on trouve le cœur du message de l'encyclique. Que jaillisse pour nous tous, dans son saint cœur, des fleuves d'eau vive qui guérissent les blessures que nous nous infligeons, qui renforce notre capacité d'aimer et de servir et qui nous pousse à marcher ensemble. Et nous pouvons ainsi, au fil de notre promenade, retrouver telle ou telle citation qui nous interpelle et qui nous pousse à approfondir et à voir quelle conversion je suis appelée à vivre. Nous pouvons choisir tel ou tel chapitre, tel ou tel paragraphe à approfondir et surtout à trouver des moyens nouveaux pour faire passer cet enseignement de la tête au cœur et du cœur vers les mains. Je pense que cette encyclique arrive au bon moment. Nous traversons une époque de confusion et de détresse mondiale, marquée par la perte des repères. La théorie du genre, la société liquide, le consumérisme, des guerres fratricides qui comportent des risques d'embrasement mondiaux. Et tout dernièrement dans notre pays, la législation sur l'euthanasie. Ce texte nous recentre sur l'essentiel et nous adresse un appel clair à la conversion, à l'ouverture à Dieu et aux hommes, aux plus petits parmi nos frères. Laisserons-nous cet appel retentir au fond de nos cœurs? Mes sœurs, je vous remercie pour votre écoute et votre attention. Si vous avez des questions ou si vous voulez simplement partager telle ou telle chose, vous avez la parole. Bien sûr, sœur Catherine, allez-y. Il faudrait ouvrir votre micro. Allez-y.
Oh bon, excusez. Alors, je vous remercie beaucoup, Marie-Paul. C'était vraiment intéressant et enrichissant. J'ai appris beaucoup de choses. Je crois que j'avais lu le petit l'encyclique, l'encyclique, oui. Mais là, ça vient vraiment m'encourager à reprendre paragraphe par paragraphe pour vraiment goûter la saveur de ce texte. Et pour moi, quand vous disiez au tout début que vous aviez passé beaucoup de temps sur l'ouverture, l'importance du cœur, moi, c'était la dernière phrase. Le Christ ressuscité sera là, harmonisant nos différences par la lumière jaillissant inlassablement de son cœur ouvert. Le mot harmonisant est venu vraiment me toucher. Et c'est sur cette parole-là que je vais passer beaucoup de temps prochainement à scruter. Alors, merci beaucoup. C'était formidable.
Merci.
Malheureusement, je n'ai pas pu amener sœur Jocelyne pour être, Bergeron pour être avec nous. Elle était avec le médecin au moment où je suis allée la chercher. Alors, elle n'a pas pu venir.
Merci. Mais je crois que la conférence est enregistrée. Donc, si vous avez la possibilité,
n'hésitez pas. Oui, elle sera contente.
Nos sœurs de Paris voulaient prendre la parole.
Nous allons terminer par un temps de prière, si vous êtes d'accord.
Sœur Lise Paquette, j'ai vu que vous aviez mis le... Non. OK. Donc, on va juste prendre un temps de prière avec le cœur de Jésus. Je pense que nous sommes nombreuses à connaître le chant cœur de Jésus, don gratuit de Dieu aux hommes. On pourrait le chanter ensemble. Cœur de Jésus, don gratuit de Dieu aux hommes, gloire à toi.
Jésus qui a tant aimé le monde, gloire à toi.
Merci beaucoup à chacune et bonne suite dans le chemin. Au revoir.